Y a pas à dire, c'est nous qui avons le plus beau générique. Rachan Rolanker, qui est son saxophone agité, qui annonce donc une nouvelle et dernière pour cette saison, édition des Oreilles Loin du Front. On se retrouve ensemble pour une heure et demie, durant laquelle on reviendra un petit peu sur les mobilisations actuelles. Et puis, dans le dossier de cette émission, ce soir, pas de dossier de cette émission, puisque nous cédons à notre tour à la facilité, et on vous proposera ce soir un best-of ou une série d'extraits des enregistrements, des reportages, des mix qui ont été faits durant cette année et que chacun d'entre nous a sélectionné. Voilà. Et ben voilà, c'était donc Jérémy qui palliait à quelques défaillances techniques pour lancer le générique. On va faire un petit peu d'agenda avec Guillaume pour commencer. Si j'ai bien compris, tu vas nous parler d'Emiliano Zapata.
Oui, puisque c'est la, pardon, c'est la quinzaine zapatiste qui débute depuis une semaine, là, je crois, et notamment ce vendredi 4 juillet à 21h, un concert de Fred Alpi en solidarité avec la communauté zapatiste en résistance. Ça se tiendra au Phoenix, 18 rue Panoyo, dans le 20e...
Panoyo. Panoyo, non, c'est pas...
Panoyo, pardon. Ouais. Dans le 20e à Paris. Et donc, il y aura aussi des œuvres, des peintures et tout ça. Et donc, ce sera pour soutenir le ZLN, donc, qui est justement dont le combat continue et dont on sait les difficultés actuelles.
Voilà, la rue des Panoyaux, c'est une des rues qui donne sur le triangle de la mort des cafés d'extrême gauche du 20e arrondissement.
De Ménilmontant.
Qui est-ce qui continue pour nous parler de Gênes ? J'imagine que c'est toi, Guillaume.
Oui, vous vous souvenez donc de la grande manifestation de Gênes en 2001 qui avait dégénéré, les flics avaient assez sévèrement massacré un certain nombre de manifestants, et donc il y a eu des procès, et les procès continuent encore, et donc notamment il y a un groupe de juristes, alors en italien il s'appelle les Segretaria Legale, un collectif de soutien juridique qui a entamé des poursuites contre la police de Gênes, et ils vont le 21 juillet passer devant le tribunal pour faire aboutir leur plainte. Et donc à cette occasion, il y a un rassemblement qui est organisé à Gênes pour revenir sur les événements qui se sont passés, et notamment autour du comportement de la police et la mort de Carlo Giuliani. Donc tout ça se passera du 18 au 21 juillet à Gênes, et je sais que pour Paris, il y a le comité Vérité et Justice pour Gênes qui organise des cars. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez joindre le site Verita, alors www.veritajustizia avec un Z.it, donc c'est un collectif italien, mais il y a des représentants en France, et qui donc pour revenir un peu sur ce qui s'est passé à Gênes en 2001.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, la l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout se met la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a un manque, il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Et place et de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Kenny Arcana, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front, et on continue ce petit agenda, on continue avec Guillaume qui va nous parler de ses vacances au bord de la mer, puisqu'il va en Méditerranée.
Certainement pas, parce que... Ben non, parce que la Méditerranée dont je vais vous parler, c'est la Méditerranée de Sarkozy, avec son fameux projet qui lui est cher d'une union pour la Méditerranée. Qui, avec un certain nombre d'États parfaitement recommandables comme la Tunisie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Albanie, la Mauritanie et l'autorité palestinienne qui n'a pas de souveraineté, enfin, etc. Il y a 11 pays du sud de la Méditerranée qui vont plus ou moins fédérer sur un certain nombre de projets, notamment des projets de libre-échange et de libéralisation des marchandises, mais aussi parallèlement de maîtrise des flux migratoires avec des zones d'enfermement et aussi tout un certain nombre de visées plus ou moins colonialistes, impérialistes, comme le dit le tract que j'ai sous les yeux, visant à défendre les intérêts des entreprises européennes en Méditerranée. Tout ça, c'est donc le fameux projet d'une union pour la Méditerranée qui va donc se tenir le 13 juillet prochain. Et donc, face à cela, il y a une manifestation qui est organisée ce samedi, donc 5 juillet, à 14h30, place Clichy. À l'initiative de plein de collectifs qui dénoncent justement cette mise en place d'une Méditerranée des intérêts des patrons, pour dire vite, et qui revendiquent au contraire une Méditerranée des luttes pour la paix, pour la justice sociale, les droits des peuples, les libertés contre le colonialisme et l'impérialisme. Donc, je ne sais pas si je cite tous les participants, mais c'est surtout l'occasion de montrer que face à ce projet d'union pour la Méditerranée, il y a un certain nombre de revendications à mettre en avant pour mettre en avant justement d'autres revendications.
Alors, de ça, on en parlera dans ce créneau horaire, puisqu'en lieu et place de notre émission, la semaine prochaine, il y a une émission exceptionnelle qui est faite par des copains qui viennent en particulier parler de la situation en Tunisie et de la situation des luttes sociales qui se passent actuellement autour du bassin minier de Galfa. Ça se passe de manière très très violente. Enfin, il y a une répression
manifestations très très dures contre les syndicalistes. Donc ils viendront parler de ça parce qu'effectivement c'est un problème sur lequel on a assez peu d'informations et ils profiteront de cette heure et demie d'émission sur FPP pour parler aussi de la répression au Maroc puisque ça se passe pas beaucoup mieux au Maroc et évidemment tout ça se plaçant dans un contexte de configuration autour du bassin méditerranéen dont tu viens de parler. Ils parleront de tout ça la semaine prochaine, donc de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel. On va maintenant parler des sans-papiers et en particulier des sans-papiers de la société DMMS dans le 20e arrondissement, une société de nettoyage.
Voilà, donc la société, les travailleurs et travailleuses de DMMS sont en grève depuis le 20 mai, donc ça fait bientôt un mois, plus d'un mois, pardon. La DMMS, donc ça se trouve 17 rue Pelleport dans le 20e, et donc ils sont toujours en train de demander leur régularisation. Bien sûr, je crois qu'il y a aussi des revendications sur les conditions de travail, mais on avait reçu sur cette antenne un des représentants des grévistes.
Pour l'instant, ils demandent des papiers, mais on voit bien que dans les sociétés de nettoyage, là, c'est beau. Plus criant qu'ailleurs encore, c'est que le temps partiel imposé, en particulier pour les travailleuses, a été très largement développé et que, en fait, c'est des faux temps partiels puisque tu es payé 4 heures ou 5 heures pour faire une série de tâches de nettoyage qui vont en réalité t'en prendre beaucoup plus à l'équivalent d'un plein temps, 7, 8, voire 9 heures. Et donc, les travailleurs se retrouvent avec, face à la préfecture, une insuffisance de revenus, mais en même temps, un employeur qui les fait travailler beaucoup plus que ce qu'il les paye réellement. Enfin, c'est des choses un petit peu compliquées et qui se négocient pied à pied, mais très difficilement aujourd'hui avec la préfecture de police de Paris. Ça concerne un autre site qui est en grève, qui est le site dans le 11e arrondissement pour la société Manette, où là, c'est quasiment exclusivement des femmes et quasiment toutes qui sont dans un temps partiel imposé.
Oui, alors Manette, justement, ça, c'est juste pour donner l'adresse, parce qu'elles ont besoin de soutien, elles aussi. C'est au 138 rue du Chemin Vert, dans le 11e. On entendra d'ailleurs, je pense, tout à l'heure, un extrait d'un des meetings autour des sans-papiers. Il y avait une des grévistes de Manette. En tout cas, pour ce qui concerne DMMS, donc pour continuer à les soutenir, il y a un repas de solidarité qui est organisé samedi 5 juillet, donc à partir de 12h, donc devant le siège de l'Union locale CGT, 13 rue Pierre Bonnard, dans le 20e à Paris. Donc c'est au métro aux portes de Bagnolet ou Maraîcher. Et puis, bien sûr, ils ont besoin de soutien financier. C'est une grève, ça a besoin de sous pour tenir. Donc, pour les aider, vous pouvez envoyer de l'argent, des chèques à l'ordre de CGT Solidarité sans papier à l'UD CGT 75 85 rue Charlot dans le 3e à Paris. Voilà. Et puis, surtout, passer les soutenir donc au 17 rue Pelleport dans le 20e.
Guillaume, on va terminer ce petit agenda avec le 1% logement, 1% logement qui est donc le tube de l'été.
Ah, ça, je ne sais pas.
Ah ben, tu te débrouilles, je te lance une perche pourrie.
Le tube de l'été, non, mais j'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Non, c'était pour vous parler de l'action que va mener les Jeudis Noirs demain soir, donc le 3. Non, même dans l'après-midi, pardon, à 15h, métro Grand Boulevard, le point de rendez-vous.
Alors demain, jeudi 3.
3 et 15h.
Et si vous écoutez la rediffusion de cette émission le vendredi sur FPP de 12h30 à 14h, c'était hier.
Voilà.
Oui, nécessairement, puisque j'ai dit jeudi 3.
Ouais.
D'accord. Donc c'est pour dénoncer en fait le sort qui est fait au 1% logement, parce qu'il y a des sous qui sont répartis pour. Qui sont pris dans les entreprises notamment. Qui représente quand même 4,5 milliards de dollars d'euros.
C'est pur.
Et qui donc sont gérés en fait par le MEDEF ou plus ou moins par le patronat qui servent à la construction, à l'aide au logement. Et en fait, cet argent qui est quand même assez substantiel est géré de façon assez assez
opaque,
on va dire, et notamment en frais de gestion qui représentent de 20 à 30 % sur les 4,5 milliards, 20 ou 30% de frais de gestion, puisqu'ils ont un hôtel particulier dans le 16e, des salaires subséquents pour leur réunion qui durent.
Heureusement qu'ils sont bien logés, eux.
Voilà, c'est ça. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qui pourraient soulever cette question du 1% logement. Et donc, les Jeudi Noir organisent une action pour dénoncer un peu le fonctionnement de cet organisme. Donc, demain, jeudi 3, à 15h, métro Grand Boulevard, il y a une action qui sera menée. Voilà, si vous êtes partant, ce sera intéressant d'y aller.
Allez, on change de continent.
Deux grandes traditions qui malheureusement ont marqué trop d'années de l'histoire de la province de Québec. Premièrement, le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir.
Au tour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest.
Merci mon père. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts.
Prêt, prêt, la charrue, charrue.
Pour Amir Kadir, maintenant la table est mise pour 4 ans partir. À parler à vue d'œil ahuri à la vue. De la bande d'abrutés qui bras d'abri d'abattus. Qui vendent à rabais par la bande. Que pas de prime, pas de monde. De finir de payer sans d'un abatti. Coupe sombre, coupe à blanc, coupe gré.
Alouette, je t'ai plus marré.
That's it, that's it, that's it. J'ai un job, un vrai job, il m'engage.
Tu vas pas me faire ça, toi?
C'est pas grave, ben là. C'est juste ton frère. C'est pas comme si t'as quelqu'un de la famille.
Ça y est. Je vais être un vrai citoyen, un comme tout le monde.
Un mouton?
Non, Paul. Quelqu'un qui aide son pays. Ton pays. T'es-tu déjà demandé ce qu'il faisait pour toi et ton pays? Rien! De la marde! Arrange-toi! Ton pays, là, hein? T'es une petite gang qu'on voit jamais. Oh, quand tu le nuis pas pis que t'es pas dans le chemin, il te crisse patience pis il t'engraisse. Mais s'ils décident de coller un pylône électrique dans ta cour, crains pas qu'ils vont le tasser ton char. Hein? S'ils veulent passer en troc dans tes culottes, ils vont t'asphalter les shorts. Pis s'ils décident de construire une porcherie sur ton terrain, ils vont te zoner plus rien. Pis quand ils veulent engraisser deux, trois gros pleins de marde sans que tu le saches, ben ils vont driver ton fonds de pension ce qu'ils veulent. Direct dans la poche de la petite gang. C'est ça ton esti de pays, le cave. Oui. Mais on a l'hôpital gratis. Une chance, Chris. Payerais-tu pour aller là, toi? Pourquoi tu penses que les riches te soignent gratis parce qu'il y aurait du cœur? Mais non! C'est pour que tu continues à travailler pour eux autres puis que t'achètes les cochonneries! La seule façon de fourrer le système, Fred Bougon, c'est de pas travailler pour eux autres puis garder ton argent dans tes poches! Pas à la banque! La banque, ils prêtent de l'argent à ceux qui en ont déjà, ils font faire du cash à ceux qui en font déjà! Voyons! Quand tu vas déposer ta petite misère une fois par semaine, ils te donnent un gros 0,1% d'intérêt. Puis quand tu décides d'encourager les petits épargnants, c'est juste pour te donner le goût de faire un don de paiement sur une maison puis d'emprunter. Parce que ça, c'est payant pour eux autres, un emprunteur. Puis tu deviens comme tout le monde, esti. Un deveu.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Et Juliette, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, j'imagine que vous avez peut-être tilté sur l'accent. On vient d'entendre un extrait des Bougons. Alors, les Bougons, c'est une série culte au Canada, même plutôt au Québec, puisque là, ils parlent en fait de ce que c'est qu'un pays. Ce pays, c'est le Québec, mais le Québec, évidemment, c'est pas un pays indépendant. Donc, c'est le Canada de ce dont on va parler. Et Monsieur Bougon, en fait, c'est le patriarche d'une famille de BS. Alors les BS, c'est les RMistes locaux. Et il habite à Hochelaga, dans un quartier populaire. Et il est très fier. Et vraiment, il ne veut pas travailler. Il veut fourrer le système. Et cela passe à peu près... Bah, ça passait toutes les semaines.
Il veut fourrer le système.
Ah ouais, il veut fourrer le système.
Explique-moi ce qu'on fait quand on fourre le système.
Et bah, en fait, il veut quand même... La chose la plus importante pour lui, c'est de lutter contre ces hosties de crosseurs du gouvernement qui ne foutent rien du tout avec leurs gros chars et tout ça. Donc, lui, grosso modo, il fait de la marijuana dans sa petite cave à Hochelaga, donc Hochelaga qui est le Ménilmontant de Montréal. Il fait aussi, il a une petite fille adoptée qui s'appelle Mao, parce que quand même il a été maoïste, hein, le cher monsieur Bougon, et donc il exploite un peu sa petite fille Mao pour voler dans les magasins, en particulier dans les magasins anglo-saxons qui ont beaucoup de choses. Et puis qu'est-ce qu'il fait d'autre monsieur Bougon? Ah oui, il fait aussi, il vole les chiens des riches et les pneus anti-neige, parce que c'est aussi important quand même de faire ce genre de choses de là. Et puis il trafique les motoneiges. Alors les motoneiges, c'est quand même une des grandes fiertés des Canadiens, puisque c'est les inventeurs des motoneiges. En même temps, bon, c'était les seuls à pouvoir inventer ça. Et donc il fait un trafic de motoneiges. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille Bougon va être adaptée en France. Donc méfiez-vous, hein, parce que je suis pas sûre que parce que cette image du BS, du RMiste est très positif dans la famille Bougon, et c'est quelque chose de vraiment rigolo et sympathique où on s'attache au personnage. Et je ne sais pas comment ça va être adapté en France, mais ça va passer sur M6 à 20h, et donc j'ai un peu des doutes sur l'adaptation possible, mais bon, on va voir.
Alors donc, tu nous parles de ça parce que tu reviens du Québec, et je sais que tu as vu là-bas un certain nombre de radios libres, des radios du même type que la nôtre. En gros, il y a quoi, c'est quoi le paysage radiophonique local?
Alors d'un point de vue radiophonique, il y a énormément de radios, ce qu'on appelle communautaires, qui sont ici des radios associatives, qui sont militantes. Alors il y a des radios qui sont dépendantes plus ou moins des universités, donc forcément il y a quand même un petit problème qu'elles sont financées par les universités, donc ça limite aussi un champ de contestation. Il y a des radios qui sont purement associatives et qui sont financées par les auditeurs, et ça marche très bien, parce que moi j'ai été à CKUT, qui est une radio plutôt anglophone, qui était financée par ses auditeurs, et il se trouve que effectivement les auditeurs donnaient de l'argent. Alors je sais pas si vous êtes là, si vous écoutez et que vous êtes riche, on sait jamais, hein, mais ça marchait comme ça. Et puis il y avait des radios aussi qui étaient financées par les partis politiques. Il y avait en particulier une radio CIBL qui était financée par le PQ. Donc le PQ, c'est le Parti québécois. Hein.
C'est ceux qui veulent fourrer le système ?
Ouais, veulent fourrer le système. Et à peu près ça, et pour être aussi le système au final, hein, puisque le PQ, c'est quand même, s'ils fourrent le système, c'est pour être indépendant et c'est pour l'autonomie du Québec et devenir eux-mêmes après les rois de quelque chose, quoi.
Alors, tu nous as ramené un autre extrait sonore de tes pérégrinations.
Oui, effectivement, parce que durant toutes mes pérégrinations, j'ai fait de la...
C'est un mot, moi aussi, j'ai super du mal à le dire,
ouais,
sans
m'affiller. Puis moi, je mange un peu mes mots. Hein. Et donc, pendant mes pérégrinations québécoises, j'ai fait beaucoup de radio. Alors, lorsque j'y étais, il y avait beaucoup de mouvements de sans-papiers avec No One Is Illegal, mais la plupart des extraits que j'avais étaient en anglais, et j'avoue, j'ai pas eu le courage de faire les traductions. Il y avait aussi des mouvements... de grève des loyers et des comités de mal logés. Et puis, il y avait les étudiants qui ont été en grève lors des deux sessions, c'est-à-dire la session de septembre, le premier semestre et le second semestre. Et ces étudiants étaient en grève contre le dégel des frais de scolarité, qui sont assez importants au Québec, mais qui sont moindres par rapport au reste du Canada. Ce qui fait qu'ils ont quand même... Il y avait eu une grande manifestation en 2005 qui était très très importante, où ça avait vraiment... il y avait une grève générale, mais cette année, ça a été très difficile. Ils n'ont pas finalement été énormément suivis. Ce qui fait qu'on va entendre deux étudiants qui sont un peu désabusés.
Philippe Louin, en fait, je suis en histoire, culture et société. Le fait que personne ne nous a suivis est assez... significatif de l'esprit du monde en ce moment, du fait que tout passe, là, puis du fait que, disons, il y a une espèce de changement aussi adopté dans nos attitudes, t'sais, envers l'institution, puis envers même l'institution de notre lutte. L'université universelle là, ou universaliste, là, qui était un sanctuaire contre le marché, puis genre de trucs-là, là, ça a l'air clairement fini, cette affaire-là. Là. À l'UQAM, en Amérique du Nord, c'est l'UQAM qui tenait un peu... qui tenait bon, puis là, c'est pas mal fini. Ça l'était depuis un bout aussi. Donc, l'université n'a jamais eu rien de bon tant qu'à moi, à part le fait que c'était une bâtisse où il y avait des jeunes qui pouvaient se rencontrer, des jeunes qui capotent un peu, tu sais, des personnes qui seront prochainement au pouvoir, puis qui puissent réaliser ensemble qu'il y a quelque chose de malsain à ça. Puis qu'ils puissent eux-mêmes capoter dans cette institution-là, dans la bâtisse, en faisant l'heure.
Puis moi, c'est Nicolas Pétain-Rochette, histoire, culture et société également. Le fait que ces jeunes-là se soient déjà rencontrés, ben en ce moment, Philippe en a parlé, après la défaite des votes des autres assos, des autres associations d'étudiants, il y a un graphe qui a commencé à être fait dans l'UQAM, ça dit « le désintérêt général fait en sorte que demain n'aura pas lieu ». Puis ce désintérêt général-là, c'est celui des jeunes, justement, c'est celui des jeunes qui sont plus des sujets jeunes, hein, qui sont devenus, avant le temps, des... Je sais même pas si on peut parler de sujet, là. Disons de sujet adulte, là, qui fonctionne selon un processus typiquement d'aujourd'hui, là. Un processus qui est rentré dans l'université, puis qui fait en sorte que l'université, c'est un lieu... disons un lieu politique terminé, là. C'est juste des flots de gens qui circulent, tu sais. C'est terminé le temps où il y avait de la politisation. Puis malheureusement, je dirais, malheureusement, on est devenu minoritaire, les gens politisés à l'université. Du moins qui essayons de faire de la politique, parce que au moindrement qu'on essaie de, disons même pas de s'opposer, peut-être juste de revendiquer le droit de revendiquer, on en est rendu là, où on est réprimé puis brimé dans tous les sens. Puis c'est un processus minoritaire, la lutte disons au cœur de l'université. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui luttent encore. Puis ben nous, on se voit un peu réduit dans ce rôle-là, de toutes parts, autant de l'interne que de l'externe. C'est ça qu'on a constaté, là. Tu sais, il n'y a plus vraiment d'opposition de la droite en tant que telle, là, à nous qui sommes la gauche. Il y a plutôt une opposition de la neutralité totale, de l'impossibilité de justement de prendre parole. Les gens, quand ils politisent leur propre existence, disons que c'est une prise de parole à laquelle on est de moins en moins habitué. Puis ça se fait... c'est vraiment affreux. C'est juste des impulsions de leur vie privée, là. De leur vie privée qui mettent de l'avant, là, qui politisent. Puis c'est cette neutralité-là qui s'est organisée contre le mouvement de protestation des gens de la gauche à l'UQAM. C'est vraiment l'absence totale de politique, la neutralité complète qui fait en sorte que...
Qui est anti-politique, en fait.
Qui est anti-politique, qui nous met des bâtons dans les roues, nous, qui nous organisons très minimement, là. Tu sais, on est quoi? On est peut-être 200-300 sur 4700. Évidemment, ça enlève rien à la valeur, disons, à la valeur de notre lutte, là. C'est juste que c'est des rapports qui vont instituer différemment. C'est un processus qui est différent de ce qui a déjà été.
Ouais, effectivement, là, c'est un processus qui est différent de ce qui a déjà été. C'est ces étudiants qui sont là à revendiquer le fait de pouvoir revendiquer, ce qui est quand même une revendication relativement limitée. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont été sacrément... quand il y a eu une manifestation, il y a les policiers qui sont venus de suite dans l'université, qui ont arrêté énormément d'étudiants. Personnellement, j'ai un ami qui s'est fait arrêter pour jet de bonbons, donc il faut quand même... Ah oui, c'est assez fort, hein. Et il a quand même passé une semaine en prison, interdit après d'aller aux États-Unis, de voyager. Donc bon, c'est un peu...
Pour jet de bonbons.
Oui, mais c'est un pays très sécuritaire.
En Réunion, j'espère, quand même.
En Réunion, oui, effectivement, mais c'est un pays très, très sécuritaire.
Non, mais il a acheté des nounours, c'est pour ça.
À peu près, ouais. Des nounours tout fourrés, tout blancs au chocolat. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont désabusés, il y a aussi des mouvements qui sont très dynamiques, en particulier les mouvements féministe, où il y a un certain plaisir au Canada, c'est qu'on parle à n'importe qui dans la rue de féministe, tout le monde est au moins d'accord sur ce point-là. Mais il faut dire qu'ils ont une histoire qui est un peu rude, et en particulier avec ce qui s'est passé à l'université polytechnique, où la première année où l'école a été ouverte à des femmes, il y a eu une tuerie avec un garçon qui n'avait pas été pris à l'école polytechnique et qui a décidé d'entrer dans l'école de polytechnique et de tuer 15 femmes. Il a séparé les hommes, les femmes, d'un cours de mathématiques, et il a tué tout le monde. Donc tous les ans, au 8 mars, lors de la journée pour la défense des droits des femmes, on parle de ça. Et donc moi, j'y étais, il neigeait énormément, mais malgré la neige et la tempête de neige aiguë, il y avait quand même pas mal de femmes dans la rue. Donc c'était à Montréal, sous la neige, il y avait la fanfare anarchiste qui jouait de la musique. Écoutons-les.
Donc on est ici debout sur la place du 6 décembre 1989 pour se rappeler de ces femmes qui ont été tuées par la violence sexiste et patriarcale. Mais on est ici pour se rappeler aussi de la violence patriarcale et sexiste qui continue au quotidien. Ça n'a pas fini en 1989 et ça continue chaque jour ici à Montréal, dans le reste du Canada et dans le reste du monde. Et tout comme la neige recouvre les plaques, il y a des plaques commémoratives dans ce parc avec les noms inscrits des femmes dont on vient de lire les noms. Tout comme la neige recouvre les noms de ces femmes-là, le silence et la complicité des institutions de l'État rend la violence contre les femmes invisible.
Barbara Legault, militante féministe radicale.
Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui?
Parce que le patriarcat continue d'attaquer les femmes, d'opprimer les femmes, d'exploiter les femmes ici au Québec, à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges où est-ce qu'on est en ce moment, mais aussi à travers le monde, puis qu'il faut prendre la rue, manifester, il faut dénoncer le patriarcat, il faut travailler à l'abolir. Donc c'est une autre action parmi plusieurs actions qu'on fait comme mouvement féministe pour cette lutte-là. Ben, je suis ici principalement comme militante. Féministe radicale, mais je suis aussi ici en tant que travailleuse de la Fédération des femmes du Québec pour, entre autres, je passe des flyers, des tracts pour faire de la mobilisation pour un rassemblement jeunes féministes pan-canadiens qu'on organise en octobre prochain, donc qui vise, entre autres, à essayer de, justement, renforcer le mouvement féministe à travers le Canada parce que avec la droite qui est au pouvoir à Ottawa, la droite morale qui prend de plus en plus de place avec les cathos d'un peu partout à travers le Canada qui sont beaucoup plus proches du gouvernement conservateur, puis avec la droite qui est au pouvoir aussi au Québec, il faut s'organiser comme féministe pour... We have to fight back. Il faut résister, il faut riposter. Puis ce rassemblement-là vise à organiser la lutte des jeunes féministes.
Merci beaucoup.
Merci.
Et ben voilà, c'était les aventures sous la neige de Juliette qui, même à 8000 km de FPP, continue à faire de la radio libre. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les oreilles loin du front. Alors Cédric, tu sais que Maurice Papon, il y a eu un problème parce qu'il voulait être enterré avec sa Légion d'honneur.
Oui.
Et il y a eu un gros débat à savoir si c'était possible ou pas. En même temps, la Légion d'honneur s'est quand même donnée souvent à des blaireaux, quoi. Bon là c'était blaireau en chef et tout. Mais moi j'avais proposé une solution intermédiaire, quoi, qui permette de satisfaire tout le monde. C'était d'accord, on l'enterre avec sa Légion d'honneur, mais dans le cul.
D'accord. Puis c'est une bonne idée, parce qu'il a aussi demandé à être enterré avec son casque à pointe et son berger allemand.
Alors depuis le 15 avril, un certain nombre de sociétés, aujourd'hui 47 en Île-de-France, sont en grève et, petite particularité, les grévistes sont des travailleurs sans papier, la plupart du temps avec des contrats de travail en bonne et due forme, mais ces travailleurs n'ont pas de papier. Bien avant, presque un mois avant le déclenchement de cette première vague de grève orchestrée par la CGT, les Fabio Lucci, les travailleurs de la sécurité privée, puisque c'est en fait les vigiles qui surveillent les magasins Fabio Lucci, entraient en grève. Ils entraient en grève parce qu'ils n'étaient pas payés. Et on se rendait compte dans cette grève qu'il y avait un niveau de sous-traitance complètement fou, puisque Fabio Lucci sous-traitait à une boîte de sécurité privée la prestation de sécurité, qui cette société sous-traitait elle-même à une autre société qui faisait appel à un troisième sous-traitant, et c'est seulement ce troisième sous-traitant qui salariait directement leurs agents. Donc il y a eu une grève et qui a pris une ampleur tout à fait étonnante, et on peut vous le dire tout de suite, c'est une histoire qui se termine bien puisque tout le monde a été régularisé il y a quelques semaines. Mais le 16 avril 2008, on recevait sur ce plateau Édouard Ley et quelques autres grévistes, ainsi que le sociologue Nicolas Jounin qui lui avait travaillé sur le bâtiment, et voilà ce qu'il nous racontait.
Je remercie la radio FPP, France, Fréquence Pluriel, je sais pas. En tout cas, on les remercie beaucoup. C'est FPP et en l'occurrence, M. Cédric et sa femme qui nous ont tout le temps soutenus avec leur radio à chaque fois, tous les mercredis à 19h30, Si vous écoutez FPP 106.3, vous allez écouter que je soutiens toujours Fabio Lucci. Franchement, parler. Merci. Merci à tous qui sont présents et qui ne sont pas présents. Merci encore. Merci, merci.
Oui, c'est en fait, de toute façon, parmi nous, comme vous venez de dire, les agents de sécurité qui n'ont pas de papier, ça fait 4 ans au moins qu'ils travaillent avec ASP. Et c'est un truc à faire révéler du fait qu'en ce moment, tous les travailleurs ont droit d'être régularisés selon le formulaire du 7 janvier qui vient de sortir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en ce moment, ils sont en relation avec la nouvelle génération d'immigrés qui ont travaillé, qui ont fait des études et qui sont prêts à aller de l'avant pour changer carrément les donnes. C'est pour cela qu'on s'est levé, nous, agents de sécurité de Fabio Lucci. Fabio Lucci, en tant que donneur d'ordre aussi, a son mot à dire. On a des contrats. C'est vrai que ce n'était pas des contrats en bon et due forme. On les demande, les contrats en bon et due forme. On les demande aussi, les fiches de paye, qu'ils soient régularisés sur les normes correctes, 151 heures, et que les salaires aussi soient sur les bonnes normes. C'est seulement ça qu'on les demande.
Ben c'est parti.
Hier, colonisé, aujourd'hui, c'est exploité. Il faut régulariser. Il faut régulariser. Hier, colonisé, aujourd'hui, c'est exploité. Il faut régulariser.
Ouais. Cette mobilisation est partie du fait que on réclamait nos salaires. Mais suivant ça, quand on réclamait nos salaires, ils voulaient diminuer les salaires au taux de 6,50 €, alors qu'on était payé 7,50 €. Parmi nous, on s'est levé en citant Lei, Djabi, moi. On est allé voir les gars de la société. À la réunion, on les a fait comprendre qu'on ne peut pas prendre 6,50 €. Mais ils sont vraiment débiles de comprendre que vraiment on en a marre ça, de tout ça. Mais ils ne voulaient pas céder. Ils ne voulaient pas céder et voilà quoi. Nous, le lendemain, on a appelé ASP. Le même jour même, on a appelé ASP, on n'a pas eu de nouvelles. Le lendemain aussi, moi-même, je les ai appelés ASP. J'ai appelé ASP et ils n'ont pas donné de nouvelles aussi. Le même jour, mes amis, moi je n'étais pas présent, mais mes amis ont décrété la grève et le magasin même a appelé ASP pour régulariser. Mais quand ils ont voulu régulariser les salaires, ils sont venus avec des chèques de 6,50 €. Comme on ne voulait pas prendre les chèques de 6,50 €, ils nous ont menacés et ils nous ont dit de déguerpir, de quitter les lieux parce qu'ils ne vont plus travailler avec nous parce que chaque fois c'est nous qui râlons. Et ils croient que ça, c'est pas normal quoi. C'est en ce moment que c'est parti. Et voilà, parmi nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sans-papiers. On les a fait comprendre qu'ils ont des droits, même si sans sans-papiers, ils travaillent.
Tout
travail mérite salaire. Et voilà, de ce fait, ils peuvent être régularisés par leur contrat de travail. Donc, c'est vrai que ça pose des problèmes. Il y a des gens qui nous interpellent. Vous n'avez pas peur d'être expulsés, tout ça. Mais bof. On a déjà trop galéré, quoi. On a déjà trop galéré du fait que ça fait 4 ans, 5 ans, on travaille. On ne prend pas l'argent d'autrui. On gagne notre sueur. Donc, voilà, quoi. Moi, je crois que c'est un truc qu'on doit dépasser en ce moment. On n'est pas là pour voler. On n'est pas là pour vendre la drogue ou ces petites conneries-là. On est là pour travailler. Et au moins, respecter les gens qui travaillent. Nous, c'est ce qu'on demande aux employeurs qui nous emploient à ce moment-là.
Alors, vous, vous appuyez, parce qu'il y a un précédent avant vous sur cette mobilisation, non seulement pour les salaires, mais aussi pour l'obtention d'un titre de séjour. Il y a eu une mobilisation il y a quelques semaines au Buffalo Grill de la Grande Armée. Là, je me tourne vers Nicolas Jounin. Toi, tu y étais et tu as vu un petit peu ce qui se passait là-bas ?
J'y étais un petit peu, hein, c'est la Grande Armée tout court, c'est pas un Buffalo Grill, le restaurant s'appelle la Grande Armée.
D'accord.
Ça appartient à un groupe aussi. Ce que j'ai vu, c'était pas exactement la même chose, si j'ai bien compris, c'était puisqu'il n'y avait pas des cascades de sous-traitants, les gars étaient les cuisiniers étaient employés directement par le restaurant. D'après ce qui ressortait, l'employeur, bien qu'il niait, savait très bien que les cuisiniers en question étaient sans papier, puisqu'il y avait même eu un épisode où un type, à un moment, le patron avait découvert qu'il était sans papier, donc en fait, il lui avait demandé de ramener d'autres faux papiers, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, ce qui était frappant, et ce qui visiblement est le cas pour vous aussi, c'est qu'ils étaient là depuis des années. C'est-à-dire que c'était pas. Ils sont. D'un côté, ils sont jetables, ils sont taillables et corvéables à merci, effectivement. Ils sont jetables, mais on les jette pas. Parce qu'on en a besoin, parce que les cuisiniers, ils sont qualifiés, parce que voilà, ils ont un certain nombre de. Et il y avait une forme de fidélisation comme ça. Dans une situation super précaire, ils prenaient même, il y en avait, je ne sais pas si c'était le cas de tous, mais ils avaient des augmentations de salaire, et il y en avait qui avaient des salaires qui étaient au-dessus du SMIC, hein, je ne dis pas que c'était la... mais c'était au-dessus du SMIC, ils pouvaient même prendre des vacances, c'est pas pour dire les sans-papiers ça coule douce, mais c'est pour dire à quel point ils sont intégrés déjà dans le salariat, que c'est déjà des travailleurs, et que même quand on utilise comme ça des gens qu'on exploite plus spécifiquement, les patrons sont bien obligés quand même de donner un petit quelque chose déjà. Et puis bah, là, vous êtes allé chercher un peu plus que ce petit quelque chose que de temps en temps il veut bien octroyer.
Alors tu parlais des employeurs qui embauchent des gens alors qu'ils savent pertinemment que les gens sont pas tout à fait en situation régulière ou qui ferment les yeux sur des papiers douteux. Toi, tu as fait une étude sur le monde du bâtiment. Je dis ça parce que à Fabio Lucci, vous m'avez raconté un peu la même chose. Est-ce que tu peux raconter un peu ça, parce que c'est assez étonnant cette pratique de tout le monde ferme les yeux pour faire semblant de ne pas voir qu'il y a des problèmes de papier, quoi.
Oui, bah, moi, ce qui m'a frappé, c'est 23,50 €, quoi. 23,50 €, Fabio Lucci paye son sous-traitant. Donc, il y a peut-être tout un tas de raisons, peut-être des détournements, en tout cas dans le bâtiment, c'est des genres de trucs qui se voient. Mais je pense que la raison aussi, c'est fichez-nous la paix. C'est vraiment, on achète une assurance avec le sous-traitant, c'est on achète une assurance employés des sans-papiers, nous, on ne veut pas le savoir et on s'en lave les mains. C'est vraiment le système de l'assurance. Et dans le bâtiment, c'est la même chose avec... des fois, c'est juste l'entreprise Bouygues ou GTM qui va appeler l'agence d'intérim et l'agence d'intérim va fournir des sans-papiers. À la rigueur, il y aura un sous-traitant entre les deux et puis après l'agence d'intérim qui fournit les sans-papiers. Mais l'agence d'intérim, elle sert à ça, entre autres, à fournir des sans-papiers et donc à faire en sorte que cette illégalité soit externalisée. Et puis avec elle, tout un tas d'autres trucs, comme payer en dessous du SMIC. Enfin, 6,50 €, c'est pas le SMIC. Dans le bâtiment, ça peut se retrouver aussi. Je ne sais pas comment vous, ils pouvaient vous licencier, mais dans le bâtiment, dans l'intérim du bâtiment, c'est on vous licencie du jour au lendemain.
C'est pareil.
Bon, voilà.
Mais c'est pareil.
Donc, toutes choses qui sont complètement illégales, et vous avez beau être sans papier, c'est ce que vous disait la CGT, c'est ce que vous disiez, vous avez les mêmes droits que tout le monde. À partir du moment où ils vous emploient, vous avez quand même les mêmes droits que tout le monde. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, c'est pas une position morale, c'est juste que dans le droit, vous avez vraiment les mêmes droits que tout le monde. Or, ils ne respectent pas le droit, donc tout ça, en fait, ils sous-traitent, en même temps qu'ils sous-traitent la main-d'œuvre, ils sous-traitent les illégalités. Comme ça, ils s'en lavent les mains. Comme ça, Bouygues et Fabio Lucci, ils sont propres.
Parce que j'évoquais ça parce que quand on s'est vu pour préparer cette émission, vous m'avez raconté ça. C'est-à-dire qu'une partie des gens qui bossent avec vous ont été employés. L'employeur savait très bien que ce n'était pas la bonne personne.
Pertinemment, il savait que voilà, il y avait des sans-papiers parce que ça les arrangeait, mais aussi ça l'arrangeait aussi le sans-papiers. Pour un sans-papiers de trouver un boulot, ce n'est pas facile. Ils trouvaient leur compte sur ça. Parce qu'un sans-papier, tu le payes 5 €, il ferme sa bouche. Tout ce qu'il a, c'est ça lui va pour se nourrir, pour espérer avoir mieux. Donc c'est pour ça que les sans-papiers sont là et être à l'affût pour être d'accord sur tout.
Comment réagissent les autres salariés de Fabio Lucci? Il y a beaucoup d'employés apparemment dans ce magasin. Quelle est leur réaction?
En ce qui concerne Fabio Lucci de Pantin, donc les salariés nous soutiennent. Même s'ils ne se manifestent pas ils nous soutiennent. À chaque fois, ils nous viennent dire courage, ce que vous luttez, c'est normal, vous êtes courageux, voilà. Et je ne citerai pas de nom, mais il y en a même qui sont même prêts pour, sortir, même nous soutenir à la grève. Mais bon, je ne citerai pas de nom. Donc, mais je sais qu'à grosso modo, donc, la plupart des salariés de Fabio Lucchi Pantin nous soutiennent. Maintenant, ce qui se passe, moi, ce que j'accentue plus pour les salariés des sans-papiers, parce que les sans-papiers, je les comprends. Imagine quelqu'un qui cherche du boulot, il n'a pas de boulot. Il vient de la, dans la sécurité. Il veut du boulot. On lui dit que bon, on vous paye 6 euros ou bien 4 euros. Parce que le jour où on lui paye 6,50 euros au bureau, j'ai un collègue qui se nomme Hippolyte, il fait dans tous les Fabio. Il m'a dit, monsieur Lé, je suis obligé de prendre 6,40 euros parce que je suis menacé de sortir de mon loyer. Et donc, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé mon loyer et je dois envoyer au pays, à mon fils, de l'argent pour ses scolarités. Et donc, je suis obligé de prendre cet argent. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais j'étais obligé de prendre ça. Mais pourquoi je suis obligé de prendre? Parce que je n'ai pas le choix, je ne peux pas le dire, je ne peux pas aller à la police, je ne peux rien faire. Vous qui avez les papiers, M. Ley, ce qu'elle m'a dit, et je sais que vous pouvez nous aider sur cette lance-là, aidez-nous. Je lui dis que ne vous inquiétez pas, je ne peux rien faire, mais je sais que ces gens-là, je ne vais pas les lâcher, parce que pour moi, c'est des criminels. Voir un sans-papier, l'exploiter, 5 euros, 6 euros, et lui dire, si tu ouvres ta bouche ou bien si tu commences à râler, je te mets dehors. Franchement, pour parler, c'est des criminels. C'est ça qu'on appelle l'esclavage moderne.
Solidarité, solidarité. Je remercie la radio FPPR, France, Fréquence, Bruyère, Louvain, je ne sais pas. En tout cas, on les remercie beaucoup. C'est FPP qui nous a tout le temps soutenus avec la radio à chaque fois, tous les mercredis à 19h30.
Alors, si on comprend bien ce que nous expliquent les copains de Fabio Lucchi, c'est bientôt l'heure de travail payée au prix du litre d'essence. Ça se poursuit, la lutte pour Fabio Lucchi, puisque même s'ils ont obtenu, et il faut le souligner tous, des titres de séjour, ils n'ont toujours pas obtenu ce qui était la base même de leur départ en grève, c'est-à-dire leur salaire. Et il y a des échéances, Alexandrine.
Oui, en fait, ils devaient passer au prud'homme le 13 juin et en fait, l'audience a été reportée au 18 juillet. Donc, a priori, on espère que cette fois, il y aura une décision qui sera prise et qu'ils auront gain de cause, bien évidemment, puisque quand même, ça fait pour certains depuis le mois de décembre ou janvier qu'ils n'ont pas été payés. Donc, le 18 juillet, donc, ça sera à 13h, donc au prud'homme. De Paris, donc c'est au 27 rue Louis Blanc, métro Louis Blanc, voilà, donc vous êtes les bienvenus pour les soutenir, et puis pour sans doute aller fêter leur victoire après, j'espère.
Alors entre-temps, nous on a passé un petit accord, vous savez que la radio FPP a des partenariats, comme toutes les autres radios, comme bon, France Inter, l'album de Carla Bruni qui sort, partenariat, alors, nous on a passé un partenariat avec les sans-papiers, avec les vigiles, les ex-sans-papiers vigiles chez DMMS, c'est-à-dire que si vous venez de la part de FPP, vous pouvez chourer des trucs dans le magasin sans vous faire emmerder.
De Fabio Lucchi, tu veux
voilà.
Dire.
Je suis français, moi, monsieur. Je parle français. Vos papiers. Vos papiers.
Allez, on continue à parler des sans-papiers. Autre site en grève. On évoquait des MMS tout à l'heure. On évoquait les Fabio Lucchi, ces manettes.
Oui, Manette, en fait, vous allez entendre Fanta de Manette qui est gréviste chez Manette, donc société de nettoyage, donc c'est une grève exclusivement féminine. Le piquet de grève se trouve au 138 rue du Chemin Vert dans le 11e, vous pouvez toujours passer les soutenir. Là, on va entendre un extrait du meeting qui a eu lieu à la Halle Carpentier dans le 13e le 12 juin dernier, donc c'est, voilà, c'est un discours de Fanta.
On vient de vous le dire, je suis Madame Koulibaly Fanta Sidibé, je suis gréviste à la société Manette. Donc nous avons commencé la grève le vendredi 23 mai. Nous les femmes, nous avons décidé de ne plus rester à l'ombre, de nous faire voir. Car cette situation nous concerne également, sinon plus. Nous sommes les plus exposés. Nous sommes fragilisés à cause de notre sexe. Sachez bien que les patrons profitent de nous. À la société Manette, nous sommes 8 grévistes, 7 femmes et un homme. Mais il faut savoir que dans la société, il y a au moins 250 salariés, majoritairement des femmes. Et je dirais que la grève n'a pas été suivie comme on l'a voulu. Mais peu importe, ça ne nous découragera pas. Car nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nous sommes employés dans les hôtels. Et sachez bien que travailler dans un hôtel, c'est une galère totale. Car non seulement on n'est pas bien payé, mais aussi on est exposé à tout. Aux agressions, aux humiliations, mais surtout à la surexploitation. Car on demande à une femme de chambre de faire 3,5 chambres à 4 chambres à l'heure, ce qui est impossible. Je dis à toutes les femmes présentes ici, surtout à toutes les femmes sans papier, ne restons plus à l'ombre, sortons, montrons-nous. Être sans papier, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité. Battons-nous pour notre droit, car personne ne le fera à notre place. Certes, il y a des associations pour nous aider. Il y a la CGT qui est toujours derrière nous. Et il y a des élus locaux qui nous soutiennent. Mais tout ça, c'est des soutiens. C'est nous et nous seuls qui peuvent résoudre cette situation. N'ayons plus peur. Montrons-nous. Montrons aux gens qu'on est capable. Car si, pour moi, si on nous emploie, si on nous donne du travail, c'est qu'on est valable. Mais le patron, nos patrons ne veulent pas reconnaître ça. Mais nous, on leur montrera qu'on est capable et qu'on va gagner cette lutte. Je dis aux femmes, gardons l'espoir, gardons le moral, gardons le sourire, car la bataille ne fait que commencer.
Allez, voilà, tout ça, ça se passait le 12 juin à la Halle Carpentier. Et entre autres intervenants, ce soir-là, on retrouvait aussi Emmanuel Terret, Alexandrine, qui venait nous causer.
En fait, il revient. Bon, c'est le format meeting, hein, je le rappelle, parce que c'est du discours, quoi. Il est revenu un peu sur les nouveautés de ce mouvement de grève de travailleurs cette fois-ci. Il a rappelé, je vais pas parler à sa place, mais il a rappelé que ça faisait des années qu'on attendait ce type de mobilisation sur la question des sans-papiers et du travail. Voilà.
J'interviens au nom des associations réunies dans le collectif Unis contre l'immigration jetable. Et je voudrais d'abord m'adresser aux travailleurs en grève et leur dire, chers camarades, voilà des années qu'on attendait et qu'on espérait un mouvement comme le vôtre. Depuis des années, en effet, plusieurs organisations syndicales, la CGT, Solidaire, la FSU et d'autres, apportaient leur soutien au mouvement des sans-papiers. Mais nous étions nombreux à leur dire « Camarades, vous soutenez les sans-papiers en tant que sans-papiers et c'est très bien, mais il faudrait passer la vitesse supérieure et les soutenir en tant que travailleurs » parce que ce sont les travailleurs les plus exploités de ce pays. Eh bien, depuis le 15 avril, voilà qui est fait et qui est bien fait. Et nous vous disons de tout cœur, bravo. L'action que vous avez engagée avec la CGT, avec Droit Devant, avec l'organisation Femmes Égalité et les organisations qui vous ont rejoints, Cette action représente un tournant essentiel dans l'histoire malheureusement beaucoup trop longue du mouvement des sans-papiers. Un tournant essentiel parce que vous avez porté à la connaissance de tous les citoyens et citoyennes de ce pays trois évidences que le gouvernement s'acharnait à leur cacher. Première évidence, les sans-papiers sont des travailleurs et des salariés comme les autres. Ils ont des contrats de travail, des bulletins de paye, ils payent leurs cotisations sociales et leurs impôts comme les autres. Et il est plus que temps de leur reconnaître leur place et leurs droits comme à tous les autres salariés. Deuxième évidence, un certain nombre de secteurs importants de l'économie française, le bâtiment travaux publics, l'hôtellerie-restauration, la sécurité, le nettoyage, l'aide à la personne et d'autres, fonctionnent largement grâce au travail des hommes et des femmes sans papier. Ces hommes et ces femmes jouent donc un rôle essentiel dans notre économie et là aussi, il est plus que temps de le reconnaître. Troisième évidence, voilà des années que des employeurs sans état d'âme exploitent en toute illégalité le travail des sans-papiers avec la complaisance, sinon la complicité du gouvernement. Bien sûr, ils nous disent aujourd'hui, mais on ne savait pas, on n'était pas au courant. Foutaise ! En réalité, les uns ne voulaient pas savoir et les autres fermaient volontairement les yeux. Eh bien aujourd'hui, les travailleurs sans papier sont sortis au grand jour. Et il est fini le temps des faux-semblants, des mensonges et des hypocrisies. Chacun maintenant est placé devant ses responsabilités et chacun devra les assumer clairement. Encore deux points. Premier point, il faut se réjouir de l'unité qui s'est faite autour de votre action. Unité syndicale d'abord, unité des associations et de tous ceux qui soutiennent le mouvement des sans-papiers ensuite. Il faut renforcer encore cette unité parce que nous savons bien que nous ne gagnerons qu'en pesant tous ensemble dans la même direction contre notre adversaire commun, le gouvernement. Dernier point, bien entendu, tous ceux qui sont dans cette salle luttent pour le même objectif, la régularisation de tous les sans-papiers avec la carte de 10 ans. Et notre combat ne prendra fin que quand cet objectif sera atteint. Mais nous n'avons jamais été des partisans du tout ou rien. Et nous avons toujours saisi les possibilités qui se présentaient grâce à nos luttes de remporter des victoires partielles, étape vers la victoire finale. C'est ce que nous avons fait en 2006 avec les familles des enfants scolarisés. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le travail. Une brèche a été ouverte. Le gouvernement voudrait bien la refermer. Et c'est pourquoi il cherche à gagner du temps et à faire pourrir la situation. À nous, au contraire, d'élargir cette brèche et d'y faire rentrer, après les grévistes d'aujourd'hui, tous les isolés, tous ceux qui sont payés de la main à la main, en liquide, à la commande ou à la journée. Car tous les sans-papiers sont des travailleurs. Et si on régularise sur la base du travail, alors il faudra bien que tous les sans-papiers soient régularisés.
Voilà, donc ça c'était un extrait du meeting qui avait eu lieu à l'Halle Carpentier le 12 juin dernier, donc c'était Emmanuel Terret qu'on vient d'entendre, juste pour dire que c'était un meeting tout à fait réussi parce qu'il y avait entre 2 et 3 000 personnes, c'était assez impressionnant et c'était très motivant en tout cas.
Et donc, passer à un sujet qui est complètement différent, sans transition comme on dit dans les médias bourgeois, donc je ne vais pas le dire, je l'ai dit trop tard. Donc depuis hier, oui on va commencer comme ça je préfère. Depuis hier, la France est donc présidente, apprend la présidence de l'Union Européenne, dans des conditions qu'on qualifie de pas idéales pour elle, bon bref, et
ridicule.
Et le point qui était très intéressant, c'était que il y a 15 jours, le traité simplifié de Lisbonne a été soumis au référendum en Irlande, et à la surprise générale, mais tant mieux, eh bien, le traité, les Irlandais ont répondu non. Pierre, et tu reviens sur cet événement.
Et oui, ça m'a paru important, surtout que je ne suis pas le seul à être revenu sur cet événement. Il y a aussi Shane McGowan. Alors Shane McGowan, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un type qui avait une dentition absolument improbable et qui par ailleurs était chanteur du groupe Les Pogues. Et Shane McGowan, qu'on croyait mort, moi-même, est ressorti de sa réserve et il a fait une petite chanson pour célébrer la victoire finalement du peuple, mais aussi des peuples européens, puisque c'est le seul pays où on a daigné consulter par référendum le peuple. Et une fois de plus, comme ça s'est passé en Hollande, comme ça s'est passé en France, le peuple a dit non. Donc Shane McGowan a fait une petite chanson pour fêter ça, et je me suis permis de vous la traduire. J'ai rencontré ma belle près de l'usine à gaz. J'ai pensé à l'avenir d'une société socialiste près du vieux canal. J'ai embrassé ma meuf contre le mur de l'usine. Vieux traité de merde. Vieux traité de Lisbonne de merde. Les nuages dérivent devant la lune. Les chats vagabondent et le peuple demande plus de justice sociale. Une fille belle comme une émeute surgit des rues cette nuit. Vieux traité de merde de droite. Vieux traité de merde. J'ai entendu une sirène provenant des docks. J'ai vu un train illuminer la nuit. J'ai senti le printemps des peuples en lutte dans le vent des fumées. Vieux traité de merde. Vieux traité de Lisbonne de merde. Je vais avec mes camarades abattre ce vieux monde comme un vieil arbre pourri. Quand j'ai compris le mépris de nos élites, j'ai embrassé ma meuf contre le mur fissuré de la construction européenne libérale. Vieux traité de merde. Vieux traité de Lisbonne de merde. J'ai rencontré ma belle à côté du mur de l'usine un soir de meeting. Rêver à un monde meilleur près du vieux canal. Et puis j'ai embrassé ma meuf près du mur de l'usine. Vieux traité de merde. Vieux traité de Lisbonne de merde. Dirty old town. Dirty old town.
une très belle chanson qui nous montre encore que des carrières parfois se brisent en vol. Certains footballeurs se cassent les jambes et ne peuvent pas aboutir à une carrière professionnelle. Et là, c'est Pierre qui s'est mis à fumer et qui a dû abandonner cette carrière de chanteur qui nous apparaissait pourtant prometteuse, Pierre.
Et voilà, qu'est-ce que je réponds à ça. Raphaël, tu nous as rejoint sur ce plateau pour évoquer une des émissions qu'on a fait cette année. Ça s'est fait avec Angèle Christin. C'était au mois d'avril, si je me souviens bien. Angèle Christin qui publiait Comparution immédiate, un retour sur la manière dont la machine judiciaire a fonctionné suite aux émeutes de novembre 2005, et ça nous avait particulièrement intéressé.
Voilà, c'était une chercheuse en sociologie qui avait fait un terrain donc suite aux émeutes de novembre 2005. Elle avait assisté à des comparutions immédiates et puis elle avait décidé d'assister en fait pendant quelques mois dans les cours de justice et d'essayer un petit peu d'observer à l'intérieur de la machine judiciaire comment se passaient les comparutions immédiates. Ça a donc été l'occasion de revenir sur les émeutes d'une part, mais aussi sur cette procédure judiciaire un petit peu particulière qui a tendance aujourd'hui à se généraliser un peu dangereusement, puisque c'est maintenant un certain nombre de cas qui arrivent dans ces cours.
C'est devenu la justice massive
rapide
pour les pauvres.
Expéditive et surtout l'espèce de soupape de sécurité qui fait que la justice n'explose pas parce qu'on relègue en fait dans ces cours un certain nombre d'affaires qui normalement relèveraient de la justice traditionnelle. Voilà.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'il l'estime utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
Donne ta main.
On n'a rien fait, vous nous avez agressé comme ça.
On vous a agressé.
Monsieur, mais
non.
J'ai rien fait.
On a, mais c'est pas une agression. J'ai fait non, c'est attention, j'ai pas de malentendu, c'est pas une agression, c'est des techniques de police.
Le mot racaille est sans doute un peu faible.
Ce sera, si vous le voulez bien, à ses enfants de répondre dans quelques années.
On va vous en débarrasser.
Une révolte populaire des cités, bien plus que de simples violences urbaines. Dans un rapport dévoilé ce matin par le journal Le Parisien, c'est ainsi que les renseignements généraux qualifient les événements qui ont embrasé certaines banlieues françaises le mois dernier. Le mouvement n'était ni organisé ni manipulé par qui que ce soit. Pas de caïd à la tête des bandes, pas d'islamistes non plus. Un fort sentiment identitaire qui ne reposait pas sur l'origine ethnique ou géographique, mais bien plus sur une condition sociale d'exclus de la société française.
Palais de justice. Magistrat. Dossier. Système.
Bon, il n'y a pas de préjudice, hein. Enfin, je veux dire, la marchandise a été restituée, il est pour 656 francs, ouais. Deux flacons de parfum Kenzo. Ouais.
Bon, faites une visite, hein, une perquis chez lui, là.
Oui.
Toujours être intéressant. Vous entendez sa mère.
Oui.
D'accord. Et puis surtout, vous me le cuisinez un peu. Bon, alors, on récapitule. Des outrages. Et puis, des violences.
Moi, j'ai... Violence,
ouais. Oui, c'est ça.
Violence, d'accord.
Uniquement, pas d'outrage.
Pas d'outrage, apparemment.
Il me semble, hein. Si.
Je suis substitut du procureur de la République et c'est moi qui suis chargé de vous dire ce qui va se passer et de vous notifier les charges qui sont relevées à votre encontre. Vous venez d'être entendu, ça a duré un peu plus de 24 heures.
Ouais.
Sur des faits de violence pour lesquels, au départ, vous étiez victime. On est d'accord.
Au départ. Jusqu'à la fin.
Alors,
parce
moi,
que
je
quand je suis parti, j'étais aussi une victime.
Je vous demanderai de ne pas m'interrompre, d'accord ? Je vous donnerai la parole après.
Ça, c'est normal, ça, par contre. Ça, c'est tout à fait normal, ça. Là, on suit la loi comme ça.
D'abord, la loi, c'est moi, c'est pas vous. Et d'une ?
La loi, c'est toute la... c'est tout le monde,
et
la
deux...
loi, c'est pas vous.
Et non. Deux, non, absolument, monsieur. Et soyez... Et il y a un autre ton devant le tribunal, je dis ça pour vous. Vous savez lire et écrire ? Je vais vous faire signer deux documents. La première, c'est le procès verbal qui reprend les charges qu'on vous reproche. Et le deuxième, c'est la demande d'être assisté d'un avocat.
La sécurité a progressé, la peur a reculé.
Là, c'était un extrait donc, qu'on avait passé durant l'émission sur les comparutions immédiates et voilà, qui soulignait un petit peu les comparutions immédiates comme recette à la soi-disant montée de l'insécurité exploitée plus que de la normale par notre cher président.
Alors on va continuer avec la diffusion d'un autre extrait d'une émission toujours au mois d'avril. Le 30 avril 2008, on recevait Isabelle Sommier. Jérémy, tu as choisi d'en repasser un extrait.
Exactement, parce que quand on vient d'entendre l'extrait que Raphaël vient de passer, ça donne vraiment envie de tout péter et de devenir violent. Donc j'ai décidé de vous... Donc on va écouter donc, un extrait de l'émission donc, avec Isabelle Sommier. Tu l'as dit, Isabelle Sommier donc, est maître de conférences en sciences politiques à la Sorbonne. Et elle venait de publier un livre aux éditions Sciences Po qui s'appelle « La violence révolutionnaire ». Comme j'aime bien sa voix et puis comme je trouve que ce qu'elle dit, c'est vraiment pas con, j'ai décidé de vous repasser un extrait de l'émission sur lequel elle revient sur les ingrédients sociétaux qui, dans les années 70, avaient permis l'émergence de mouvements révolutionnaires violents. Et dans son livre, elle aborde un petit peu tout ça, donc ça c'est un peu la partie historique, mais elle aborde aussi la violence révolutionnaire des mouvements aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Japon. Donc je vous propose d'écouter cet extrait sur les ingrédients sociétaux et c'est Cédric qui lance le sujet.
On peut se poser la question, quel est donc le contexte qui a permis l'émergence de ces groupes violents ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, par contraste, que la période n'est pas du tout propice, on peut le dire comme ça, à l'émergence de tels groupes. En revanche, à l'époque, il y a peut-être un contexte des années 60 qui sinon explique et peut-être détermine en partie la piste suivie par une partie des militants.
Je dirais pas que la période n'est pas propice aujourd'hui, parce que d'une certaine manière elle est beaucoup plus désespérante et donc beaucoup plus propice à une explosion que ça n'était le cas dans les années 60. Mais effectivement, il n'y a pas les préalables pour une collectivisation, si je puis dire, de la contestation. Alors dans les années 60, il y a plusieurs éléments et qui se retrouvent partout, hein, enfin en tout cas en Occident, hein, et puis aussi au Japon. Hein. Il y a d'abord une radicalisation très forte de la jeunesse, hein, de la jeunesse scolarisée d'abord, et en partie de la jeunesse ouvrière dans certains pays, et c'est ce qui fera la différence en quelque sorte avec en Italie, hein, où la jeunesse scolarisée va pouvoir rencontrer une partie de la classe ouvrière marquée par son côté jeune, quoi. Enfin, donc il y a la radicalisation de la jeunesse, il y a un anti-autoritarisme diffus contre l'ensemble des institutions. Alors évidemment l'université, hein, mais aussi l'environnement familial, hein, que ce soit en France ou en Italie, hein, l'un des premiers symptômes, si je puis dire, hein, de la révolte qui couve, hein, c'est le fait que les jeunes réclament à discuter et à discuter de la sexualité, à remettre en cause les carcans qui leur sont imposés. Hein, il y a une scène très connue en France qui est celle où Cohn-Bendit interpelle Missoff, qui est alors le ministre de la Jeunesse, hein, qui inaugure une piscine à Nanterre. Et puis Cohn-Bendit lui demande « Oui, mais vous n'avez pas parlé des problèmes sexuels de la jeunesse ?» Et puis Missoff lui répond de façon très hautaine « Bah ouais, si vous avez... » En gros, hein, enfin, ce n'est pas tout à fait les termes, enfin bon, le sens était celui-là. Si vous avez des chaleurs, eh bien, plongez-vous dans la piscine, quoi. Et en Italie, on retrouve la même chose, hein, c'est-à-dire un journal lycéen à Milan qui aborde les problèmes, les revendications, hein, sexuelles de la jeunesse, et qui, ces lycéens vont être vont eux aussi être mis à l'écart hein, du lycée. Donc il y a ça, hein, et il y a un contexte international qui est tout à fait particulier, hein, qui est marqué par la réactivation du mythe révolutionnaire. Il y a Cuba, bien évidemment, il y a la Chine contre l'Union soviétique, il y a le Vietnam qui joue un rôle tout à fait considérable. Pour la France, il y a aussi le souvenir de la guerre d'Algérie, parce que quand on parle d'une génération 68, c'est faux. Il y a plusieurs générations 68. Et la première génération 68, ceux qui, dont on parle maintenant souvent, les leaders, hein, Gessmar, Krivine, etc., leur baptême politique, en quelque sorte, ce n'est pas 68, hein, c'est la lutte contre la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis un troisième élément, c'est la crise que l'on retrouve partout, hein, la crise des organisations traditionnelles de gauche, hein, à la fois les jeunesses communistes et plus encore les jeunes des syndicats étudiants d'obédience communiste. Et en fait, tous les groupes d'extrême-gauche incubent au sein et en opposition avec la ligne conformiste, orthodoxe des rangs syndicaux d'obédience communiste.
Et voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on va continuer dans la catégorie Bac plus 35, puisqu'on va écouter un extrait de Daniel Ben Saïd. Raphaël, tu as rejoint cette année notre émission et tu t'es retrouvé donc face à une des plus grosses pointures, un des intellectuels les plus stimulants actuellement présents aujourd'hui. Donc peut-être premières impressions, premières émotions de cette confrontation.
Premières impressions, même pas mal. Voilà, je m'attendais à un choc frontal assez violent. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. On recevait Daniel Ben Saïd autour de plusieurs bouquins qu'il avait écrits. L'un sur BHL. Un petit pamphlet, qui...
Un petit pamphlet qui lui permettait de remettre un petit peu à plat ce qu'il pensait de toute cette génération d'intellectuels du renoncement.
Voilà, et comme une façon aussi de redéfinir ce que pourrait être la gauche aujourd'hui et demain.
Et puis, il venait de publier un bouquin super compliqué que seul Guillaume avait réussi à lire et à parler, dont seul Guillaume avait réussi à parler, qui s'appelait, je sais plus quoi, Éloge d'une politique profane, si je me souviens bien, qui t'avait laissé bouche bée.
Non, pas tant que ça, si.
Si, tu bavais.
Je bavais, peut-être.
Donc, qui avait ouvert, en tout cas, enfin, le.
Non, c'était une discussion, débat. Enfin, c'était une réflexion sur justement le mouvement intermondialiste et l'extrême gauche, grosso modo, pour aller vite. Et il pointait un certain nombre de bases sur lesquelles il tenait et qu'il ne retrouvait pas forcément le mouvement intermondialiste. Et donc, il défendait certaines positions de l'extrême gauche traditionnelle, marxiste, révolutionnaire.
Alors là, ce soir-là, on avait discuté entre autres de quelle pouvait être la vision de l'extrême gauche entre une vision qui la présente comme le danger absolu ou le mal absolu et la vision que pouvait en avoir Ben Saïd. C'était Benfa.
Une partie de la gauche néo-progressiste
s'immole avec des livres de Karl Marx.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on reçoit aujourd'hui Daniel Ben Saïd et Raphaël. On évoquait son livre sur BHL, qui sert de prétexte.
Voilà, qui sert de prétexte. Et du coup, pour continuer, vous disiez tout à l'heure que BHL dénonçait, stigmatisait l'extrême gauche actuelle sans énoncer un projet politique précis. Vous, du coup, vous profitez de ce livre pour redéfinir certaines positions politiques. Et du coup, c'est peut-être l'occasion d'évoquer un peu ça et ça nous lancera sur les livres suivants. L'extrême gauche, aujourd'hui, elle en est où ? C'est-à-dire, on ne se reconnaît pas dans l'espèce de caricature qu'en fait BHL. Et comment elle vit aujourd'hui ? Comment elle peut espérer justement dépasser ce carcan-là et proposer de nouveau
Ça dépend d'abord des luttes qui se mènent. Mais enfin, si on regarde la séquence telle qu'elle s'est développée après Bon, ça ne résout pas les problèmes difficiles qui sont devant nous, mais si on regarde la séquence depuis les grèves de 1995, les grèves de 2003, le non-référendum, les luttes des banlieues, le CPE ou les mouvements en cours, même s'ils n'ont pas gagné sur la loi Pécresse ou sur les retraites, et je crois que ça a quelque chose à voir avec 68, hein, je ne dis pas en ligne directe, mais quelque chose à voir, il y a eu une capacité de résistance, pas totale, on a beaucoup perdu, mais de résistance à la contre-réforme libérale, un peu meilleure que dans des pays voisins, ce qui explique aujourd'hui que Sarkozy doit mettre les bochers doubles pour mettre à peu près la situation française du point de vue du droit social à la norme libérale européenne et mondiale. Bon, alors, par rapport à ça, donc, il y a une épreuve de force engagée et pour laquelle je crois là encore qu'il y a eu un peu de panique sur Sarkozy. On en prend pour 10 ans, pour 20 ans, etc. Je ne dis pas qu'il va tomber tout de suite, mais la crise de domination et d'hégémonie côté classe dominante n'est pas résolue pour autant. Les retournements d'opinion, vu la crise économique, ont été plus rapides même que ce qu'on pouvait penser. Donc, et dans ce contexte-là où les résistances, même si elles ne remportent pas de victoires spectaculaires, existent, le problème, c'est d'exprimer un projet alternatif à une gauche recentrée, une gauche du centre, ou alors une gauche de droite, comme ose le dire Francis Marmande. Bon, c'est tout le problème qui nous a été posé au moment de l'élection présidentielle et qui reste posé aujourd'hui. Mais on voit bien que se confirme, même sur le terrain électoral, qui n'est pas le terrain le plus favorable, hein, et même sur un des pires d'entre eux, qui sont les élections municipales, parce que jouent les clientèles locales, les personnalités locales, etc., qu'il y a des... Je ne vais pas plaider pour ma paroisse, mais interpréter les signes. Pour moi, un des signes les plus importants... Je pense que pas grand monde l'aura remarqué, et je comprends pourquoi. Mais disons que la Ligue a présenté 200 listes en coalition variable avec des militants ou des sections locales du PC, avec des écologistes de la décroissance à Lyon, etc. Bon. La plupart de ces listes, les deux tiers ont fait plus de 5% dans des élections qui sont difficiles. 30 ont fait plus de 10%. Mais ce qui m'intéresse, c'est le second tour. Là où ces 30 listes ont fait plus de 10%, elles ont été maintenues au second tour, au risque de faire perdre la gauche. En disant, mais puisque vous n'avez pas voulu, y compris une coalition en indépendance, etc., normalement, on pouvait penser que les gens émettent un vote de conviction au premier tour et du moindre mal au second. Or, non seulement ces listes à Clermont-Ferrand ont augmenté de 13 à 15%, à Saint-Nazaire de 12 à 17%, et dans des villes comme Foix-Louviers, elles ont perdu sur... Elles sont passées de 11 à 10 ou 9%. Donc, ce n'est pas généralisable. C'est simplement un indice. Mais d'une cristallisation, d'une vraie dissidence politique par rapport au PS. Et oui, BHL ne propose pas de programme en positif, ni d'idées très importantes en positif pour le PS. En revanche, il se fait le porte-parole d'une opération politique, qui est la coalition au centre, qui est la version française, finalement, de ce qui s'est passé en Italie avec la création du Parti démocrate de Walter Veltroni. Autrement dit, un nouveau centre. Alors, toute la question était de savoir qui en serait la locomotive. Je crois que Bayrou, aujourd'hui, dans les choux pour un moment, il va être condamné à chanter des chants béarnais pendant 4 ans sur la dernière marche de l'Assemblée nationale avec ses 3 collègues. Bon, d'où le PS à la main aujourd'hui pour mais ça sera la même chose. Ça sera ou Ségolène ou Strauss-Kahn ou un autre. Mais enfin, qui va, en gros, de même que Sarkozy veut aligner le pays sur la norme sociale libérale européenne, eh ben, ce qui est en cours et à l'ordre du jour, c'est l'alignement du PS ou le parachèvement de l'alignement du PS sur le New Labour, sur le Parti démocratique italien, etc. Bon, alors, ou bien on est capable de développer une alternative à ça. Et ben là, ben, c'est une discussion qui va au-delà, j'imagine, de notre entretien. Mais c'est effectivement l'ordre du jour.
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais...
Le Clémenceau va pouvoir partir, mais ça ne signifie pas du tout qu'il arrivera en Inde.
Il entreprit un long voyage.
Le voyage vers le chantier de démolition d'Alang en Inde devrait durer environ 2 mois, un laps de temps que les militants anti-amiante comptent mettre à profit pour engager d'autres batailles juridiques et peut-être obtenir le retour de l'ancien porte-avions.
Le Clémenceau, l'ancien fleuron de la marine française, a quitté aujourd'hui Toulon. Direction l'Inde, c'est là qu'il va être démantelé. Mais les associations écologistes n'ont pas obtenu gain de cause. Elles demandaient que l'ancien porte-avions soit d'abord complètement désamianté.
J'étais un bateau gigantesque.
La coque truffée d'amiante du porte-avions présente un vrai danger.
Capable de croiser mille ans.
Alors voilà, je voulais vous parler du Clémenceau parce que vous le savez, le Clémenceau, eh ben, il ne va pas partir en Inde, il va partir en Angleterre avec un nom qui il s'appelle le Q790, donc ça craint pour un porte-avions qui a été le symbole de la France. Et cette histoire du Clémenceau m'a fait penser à une autre scène que j'ai imaginée plusieurs fois. C'est une situation à laquelle je ne pourrais pas m'empêcher de penser le 14 juillet prochain, lors du défilé, imaginez, un des avions quitte l'ordre et sème le désordre en venant s'écraser sur la tribune présidentielle. Alors, on peut rêver, j'y ai souvent pensé, je me suis dit, il y a un taré qui va le faire. Eh ben, c'est arrivé presque dimanche dernier. Donc, Guillaume, tu n'étais pas au courant, mais dimanche, je vais te raconter ce qui s'est passé. Je voudrais rendre hommage à ce sergent donc, de 28 ans, du 3e régiment de parachutistes de Carcassonne, qui, vous le savez, donc, lors d'une démonstration dimanche après-midi, a tiré à balles réelles sur le public. Alors, je cite le président de la République, une fois n'est pas coutume, hein, qui a dénoncé la bavure avec détermination en affirmant « c'est pas normal ». Il a dit « c'est pas normal ». Alors, je voudrais rendre un hommage à ce militaire et lui dire bravo, parce que tirer dans le tas avec un FAMAS et pas être foutu de tuer un ou deux enfants, faut vraiment être balèze. Et ce qu'on dit pas, c'est que lorsqu'il est sur le terrain, hein, le bidas, il joue à la guerre et il œuvre pour la paix, parce que sur le terrain, on pourrait aussi imaginer bah, qu'il se mette à confondre balle à blanc et balle réelle. Du coup, il tire à balle à blanc sur les ennemis. Alors, voilà, je voulais vous passer une petite chanson pour nos braves soldats, pour nos paras.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat s'est formée ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste.
Voilà, cette émission approche de son terme. Je voulais tout de même profiter que l'équipe soit quasiment au complet autour des boutons, autour des micros pour faire le bilan, parce que je pense qu'à un moment donné, bilan et perspective, ça s'impose. Ça fait tous plus ou moins longtemps qu'on se retrouve plus ou moins régulièrement tous les mercredis pour essayer de donner à chaque fois écho à des mouvements sociaux, à des chercheurs qui essayent de penser un petit peu contre ce système. Je voulais savoir, à votre tour, ce que vous en pensez. Peut-être la parole au dernier arrivé autour de cette table. Je sais que pour gagner ta vie, comme prolétaire, tu es obligé chaque jour de te compromettre avec la radio bourgeoise dans une grande maison. Est-ce que chaque mercredi, cette espèce d'exercice pratiquement d'hygiène radiophonique t'apporte c'est justement cette hygiène dont tu as besoin, Raphaël?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une sortie de zoo, non pas une sortie au zoo. C'est-à-dire que chaque mercredi, j'ai vraiment l'impression d'aller dans le monde réel, de quitter ce petit monde théâtralisé qui est devenu notre chère radio publique. Et c'est avec joie, effectivement, Pierre, que je vous retrouve chaque mercredi. Vous êtes mon souffle, vous êtes ma respiration, mon air. Encore merci, grâce à vous, je revis. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je rejoindrai vos rangs dès l'année prochaine.
Alors je me tourne vers l'autre de nos camarades qui, pour gagner sa vie, a dû se rapprocher des formes les plus embourgeoisées de la pratique du journalisme, Jérémy. Est-ce que comment tu vois cette chance, enfin moi si je peux donner mon point de vue, cette chance qu'on a chaque mercredi de pouvoir recevoir à peu près qui on veut, de traiter à peu près le sujet qu'on veut, de la manière dont on décide nous, et il n'y a personne, parce que c'est quand même une des particularités de cette antenne, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de notre émission pour dire ce qu'on devrait faire ou pas faire, est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, si ce n'est ne pas appeler au meurtre parce que ça pourrait nous coûter cher en termes juridiques.
Je viens juste de dire qu'un avion sur la tribune présidentielle, ce serait pas mal, donc c'est pas un appel au meurtre, ça. Ça, c'est vrai que je peux peut-être pas le dire, c'est ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Là, c'est vrai que venir tous les mercredis, c'est quelque chose qui est pas évident pour moi, pour d'autres aussi. Et donc quand je viens, j'essaye de venir avec un petit peu de matos en plus, une espèce d'excuse ou de pack quand j'arrive avec du son, quoi. Et donc,
de bière aussi.
Et pack de bière aussi également, c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez. Et comme il faut faire très court, puisque là on arrive à la fin, et ben c'est une vraie liberté. Et j'espère que ça va continuer l'année prochaine, dans une ambiance peut-être un peu plus détendue, on en parlera après l'émission.
Guillaume, Juliette, tu n'as pas encore parlé, faut que tu dises. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une forme de désapprobation ton silence ce soir?
Non, c'est juste que ça fait 7 ans, je crois, à peu près maintenant que je fais cette émission, donc ça fait quelques années, c'est vrai que je m'interroge, voilà, c'est tout.
Ah ouais, carrément, l'outing en direct de Guillaume.
Le coming out, là.
Je vous raconte pas la réunion après, quoi.
Ah, et moi, je continue à faire de la radio, quoi qu'il en soit, puisque je deviens bourgeoise, autant... À côté, faire des choses un peu pour le plaisir, différentes, que ce soit au Canada, que ce soit ici. Moi, je suis pour les radios libres, de toutes les façons.
Allez, moi, j'espère qu'on se retrouve tous à la rentrée pour continuer donc à fourrer le système. Et on va pas se redire, voilà. Allez, ciao.
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, il y a des émissions politiques à saisir par les cheveux, et ce soir c'était donc les oreilles loin du front, avec autour des boutons, autour des micros, il y avait celui qui rentre en dissidence radiophonique, c'était donc Raphaël. Il y avait celle qui revient de loin, et pas seulement politiquement, c'était notre alter réalisatrice Juliette. Il y avait aussi Cédric à nos côtés, celui qui peut ouvrir une canette de bière, simplement grâce à la puissance de sa pensée matérialiste, Cédric. Ce soir, notre spécialiste du mouvement ouvrier japonais, c'était donc Guillaume Yom. Et puis, si le quart de rouge est la boisson du garde rouge, c'est aussi celle du camarade Gwen venu ce soir assurer la sécurité des locaux.
Voilà,
alors ce soir, autour des micros, autour des boutons, il y avait donc toute l'équipe des oreilles loin du front. Il y avait Alex, il y avait Jérémy qui lui demande que la responsabilité de Fabio Lucci soit engagée. Il y avait Juliette qui, elle, demande le paiement du salaire dans son intégralité. Il y avait Cédric qui demande la régularisation de tout les sans-papiers, et puis il y avait Guillaume qui s'élève contre une société définitivement trop sécuritaire. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle édition.
Allez, voilà, c'était les oreilles loin du front, et selon les catégories juridiques du code de justice militaire, il y avait ce soir autour des micros, pour commencer, un déserteur, celui qui ne supportait plus de voir la reine Fabiola tous les jours à la télé. Il a donc pris son sirop de liège sous le bras et il est venu grossir le rang des chercheurs en haillons en France. C'était Cédric. Et puis, toujours selon le code militaire, lui, c'est un insoumis refusant le diktat de la mode et de la diététique. Le plus imperméable des bolcheviks, c'était Guillaume qui était avec nous ce soir. Grâce à son syndicat et ses petits bras musclés, c'est plus qu'un train sur cinq qui était bloqué, c'était Benoît ce soir.
Et puis derrière la vitre, un doigt sur la gâchette, un doigt sur la console, on retrouvait le porteur de valises pleines de bière, c'était Jérémy. Il y avait aussi Alex et il y aura bientôt les sirènes du port d'Alexandrie. Puisque
voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission congruente, parfois avec des choses bizarres. Ceci dit, ce soir, autour des boutons, autour des micros, on retrouvait Alex, on retrouvait aussi celui qui ne coûte pas très cher, mais lui, il est libre. C'était l'animateur buveur, enseignant-chercheur, c'était Cédric. Il coûte pas très cher non plus, pourtant, il hisse chaque semaine cette émission en haut du palmarès off de Shanghai, c'était Guillaume. Mais voici que s'approche Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid. On vous abandonne donc dans les bras d'Écho du Capricorne.
Ciao. On vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.